Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Antoine Cavallero.
Bonjour à toutes et tous, RTL Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et on vous accompagne sur la route entre ceux qui rentrent de vacances, ceux qui partent. Vous êtes très nombreux ce samedi, Pierre Collat, on en est où?
Alors le pic a été atteint juste avant midi, 770 km de bouchons cumulés sur les autoroutes, la tendance est légèrement à la baisse.
On fait un point complet dans un instant. Dans l'actualité également, le conducteur touché par des tirs de policiers après un refus d'obtempérer à Vénissieux, on l'apprend ce matin, il a succombé à ses blessures dans la nuit. La Corse qui tente de se relever après les très très violents orages. RTL est sur place. Accepter le prix de notre liberté. Extrait du discours hier d'Emmanuel Macron en évoquant la guerre en Ukraine. Qu'a voulu-t-il dire exactement? On pose la question. Le sport, du foot avec la Ligue 1, Marseille reçoit Nantes ce soir et de l'Ultra Trail. Vous savez, ces courses hors normes. Nous sommes avec le vainqueur de l'Échappée Belle, une des courses à pied les plus dures de France. Il vient de courir pendant 24 heures sans dormir, sans s'arrêter. Il nous raconte cette incroyable performance. La météo, Anthony Kazmarek, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
La météo en quelques mots.
Retour d'un temps sec et très ensoleillé pour ce samedi. À peine quelques averses près des frontières de l'Est et encore du vent en Méditerranée. Les températures de saison, 21 à 28 degrés, mais encore 28 à 33 du sud de la Garonne à la Méditerranée.
Merci Anthony, on vous retrouve dans le journal. Je vous donne le menu pour tout à l'heure. Ça allez, vous intéresse?
Bah bien sûr.
Soupe de melon, évidemment. Oh là là. Recette estivale signée Pierre Herbulot, j'ai réservé la table pour midi 55.
RTL Midi.
Comme un air de fin de vacances, on le voit sur nos cartes des routes. On rappelle une journée classée rouge dans le sens des retours pour tout le pays. Rouge également dans le sens des départs pour le sud-est. Pierre Collat toujours là pour vous aider, vous nous le disiez. On a atteint les 770 km de bouchons cumulés.
Oui, et comme souvent, c'est dans la vallée du Rhône que ça bloque le plus. En direction de la Méditerranée, vous traversez des bouchons dès la sortie de Lyon. 20 minutes de difficulté sur 9 km pour rejoindre le péage de Vienne-Reventin. Ensuite, il faut compter une heure de plus qu'en temps normal. 2h30 au lieu d'une heure et demie pour rejoindre Orange. Ça bloque surtout autour de Valence. Si vous continuez ensuite sur l'autoroute A9 direction Barcelone, là aussi, vous perdez une heure pour rejoindre Narbonne. Coup de frein à hauteur de Nîmes et de Béziers. Dans l'autre sens, entre Narbonne et Orange, vous perdez également une heure. Puis entre Orange et Lyon sur la 7, c'est encore plus chargé que dans l'autre sens. Il faut compter actuellement 3 heures. C'est deux fois le temps habituel. Dans le sud-ouest, sur la 63, c'est très chargé au sud de Bordeaux dans les deux sens. Actuellement, comptez 1h30 pour rejoindre la rocade depuis la sortie 21 Salles.
Et bien justement, sur cette autoroute A63, on rejoint Juliette Chénion sur l'aire d'autoroute de Cestas au sud de Bordeaux en Gironde. Vous y êtes depuis ce matin, Juliette. Vous étiez surtout avec tous ces vacanciers sur le chemin du retour. Là, vous avez traversé l'autoroute, façon de parler évidemment. Vous êtes avec ceux qui ont de la chance, ceux qui partent en vacances.
Oui, sur cette aire de repos, deux côtés, celui des retours du sud vers le nord, parking bondé, et le côté départ où je me trouve, c'est plus calme. Pause pique-nique pour James, petit sandwich.
Oui, c'est pour se donner un peu de force.
Ouais, alors on aurait pu aller directement en fait, mais là on s'est dit non, on va se poser un petit peu, on a vraiment le temps.
Pause également pour Vanessa, elle a l'habitude de partir fin août.
Toujours fin août, ouais. Toujours fin août, c'est comme ça les vacances, tout le temps.
Est-ce qu'on y trouve quelques avantages quand même?
Oui, le prix, ouais. Un peu en dessous, ouais. Et moins de monde.
Avec sa famille, ils se rendent à Biscarrosse, Lola et sa fille aussi.
Ça fait changer d'air toujours. J'espère qu'il fera beau parce que c'est fini la canicule.
Météo incertaine donc, mais ici pour les vacanciers, le programme est déjà bien connu.
La plage.
Repos, profiter, piscine, plage.
Découvrir et se poser.
Avec les enfants alors?
Oui, ça a été peut-être les dernières vacances avec les grands, donc on en profite encore un peu.
Une fois arrivé ici, à l'aire de Cestas, les vacances ne sont plus très loin, plus qu'une ou deux heures de route, avant de profiter de la fin de l'été en famille.
Merci Juliette Chénion à Cestas et son aire d'autoroute correspondante RTL en Gironde.
Antoine Cavallero, RTL Midi.
24 heures après un contrôle de police qui a mal tourné à Vénissieux, on l'apprend ce matin, le conducteur de la voiture est décédé la nuit dernière. Le passager lui avait été tué sur le coup après les tirs de policiers. Raphaël Vantard, vous êtes notre correspondant à Lyon, bonjour.
Bonjour.
Le conducteur de ce véhicule se trouvait entre la vie et la mort.
Oui, cela faisait deux jours que son état de santé était jugé désespéré par les médecins qui l'ont pris en charge dès jeudi au sein de l'hôpital Lyon Sud. Dans la nuit, cet homme de 26 ans, originaire d'Annecy, a fini par succomber à ses blessures par balle. C'était lui qui conduisait le véhicule dans lequel se trouvait un autre passager de 20 ans, lui tué, vous le disiez, sur le coup. Lors de ce contrôle de police, le conducteur décédé cette nuit était recherché depuis plusieurs jours pour vol aggravé de véhicule. Il avait déjà été condamné à 9 reprises pour différents délits. D'après les premières constatations des enquêteurs, c'est lui, ce jeune de 26 ans, qui aurait refusé le contrôle de police à Vénissieux jeudi, percutant sur le parking d'un hypermarché une patrouille de forces de l'ordre qui a ensuite dû ouvrir le feu. Les deux policiers qui ont utilisé leurs armes de service sont sortis de garde à vue hier soir. Ils ne sont pour le moment soumis à aucune poursuite ni contrôle judiciaire, mais l'enquête confiée désormais à un juge d'instruction se poursuit. Ces policiers devront notamment assister à une reconstitution du drame. La balistique de leur tir va également être étudiée de près pour vérifier s'ils étaient bien, comme le laisse penser les premiers éléments de l'enquête, en situation de légitime défense.
Raphaël Vantard, correspondant RTL à Lyon. Deux jours après les terribles orages, la Corse continue de panser ses plaies. L'île de Beauté endeuillée, faut-il rappeler ce lourd bilan, 5 morts, d'innombrables dégâts matériels. Lors de son déplacement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis une enquête sur Météo France. Pourquoi l'alerte a-t-elle été déclenchée quelques minutes, quelques heures avant l'arrivée de la tempête? Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Corse. Bonjour.
Bonjour.
On le sait, cette alerte tardive fait effectivement polémique. Est-ce que cette enquête, on la réclame sur l'île ?
Ah oui, on la réclame. D'ailleurs, l'ouverture de cette enquête est ce matin sur la une des journaux locaux. On en discute un peu partout. Annick et Michel, deux retraités, ont perdu dans la tempête un balcon. Pour eux, plusieurs heures avant, des signes laissaient penser que le phénomène serait très violent.
J'ai dit attention, on ferme tous les volets. Je dis c'est toutes les conditions extérieures, début d'un ouragan. Mais...
Vous avez été assez prévenu ou pas ?
Non.
Non, voilà.
Il faut quand même pas exagérer. Hein. Je pense que malgré tout, il y avait des signes qui disaient que ça allait avoir un bon orage.
Mais peut-être qu'ils feront beaucoup plus attention maintenant. Hein.
Sans alerte orange, impossible de se préparer sur terre, mais aussi en mer. Les marins sont particulièrement remontés car en cas d'alerte orange, ils sont priés de se mettre à l'abri. Avec l'alerte jaune, ils ne l'ont pas fait. Résultat, un bilan très lourd, un pêcheur, une kayakiste décédée. La famille de Julie a vécu la tempête depuis un voilier.
En mer aussi, on n'a pas pu se préparer. On n'a pas pu aller prendre un mouillage sûr. C'était impossible avec les données météo d'imaginer un tel désastre. Si ça avait été moins tardif, on aurait pu épargner beaucoup de dégâts matériels, beaucoup aussi de dégâts humains.
Voilà, l'enquête devra maintenant déterminer s'il y a réellement eu un manquement, car selon les météorologues, les vents se sont formés en quelques minutes et n'ont donc pas pu être anticipés plus tôt.
Valentin Boisset, en direct de Corse, envoyé spécial de RTL sur l'île de Beauté. Les intempéries tragiques ou encore les incendies ravageurs, évidemment évoqués par Emmanuel Macron hier soir. C'était lors d'un discours à Bormes-les-Mimosas, son lieu de villégiature. Mais le président de la République est également longuement revenu sur la guerre en Ukraine. Il a dénoncé l'attaque brutale de la Russie et il a eu ces mots.
Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs.
Accepter de payer le prix de notre liberté. Marie Mollet, bonjour.
Bonjour.
Du service politique de RTL. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Marie ? À quoi faut-il s'attendre, se préparer ?
Eh bien, il faut se préparer à la suite de la crise énergétique, à encore plus d'inflation qui atteint déjà presque 9% en Europe, à une hausse des cours des matières premières, en particulier sur le gaz et l'électricité, avec, oui, la possibilité d'une coupure totale du gaz russe en représailles des sanctions européennes. Il faut envisager ce scénario dur, Emmanuel Macron l'a dit lui-même le 14 juillet, d'autant que l'Europe a du mal à constituer des stocks en prévision de l'hiver, même si on le rappelle, la France est moins dépendante du gaz russe que certains de ses voisins, comme l'Allemagne. Alors le prix à payer, c'est d'abord celui des petits efforts du quotidien à fournir pour économiser de l'énergie. Le président de la République a appelé les Français et les entreprises à la sobriété, baisser la climatisation, débrancher les prises quand c'est possible pour entamer le moins possible les stocks. Et puis oui, les factures d'énergie vont probablement continuer d'augmenter. Le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité s'arrête au 1er janvier 2023. Il sera remplacé par des aides ciblées, notamment pour les plus modestes. Le quoi qu'il en coûte pour tous, c'est donc terminé. C'est cela le prix de la liberté dont a parlé hier soir Emmanuel Macron.
Merci Marie Mollet du service politique de RTL. RTL midi 40 et cette alerte au Bahin, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine déclenche son dispositif de surveillance maximale des Charentes maritimes aux Pyrénées-Atlantiques. Toute la côte est concernée aujourd'hui. Si vous êtes sur la plage, on ne le répétera jamais assez. Méfiance et prudence face à ces courants marins qui vous emportent vers le large. Cyril Lambert est maître nageur, chef du poste de secours du Grand Croc en Gironde. Les Bahin, c'est quasiment son quotidien.
Sur la période estivale, on intervient quasiment tous les jours pour porter secours, soit par une aide à baigneur quand c'est dépisté très tôt, soit après par une intervention avec des moyens de sauvetage comme la bouée tube ou le filin pour sortir les gens de la Bahin. C'est très impressionnant parce que c'est très rapide, hein. C'est vraiment une zone qui est calme, donc les gens pensent être dans un endroit sécurisé, ils s'avancent un petit peu, et dès lors où ils perdent pied, là c'est très rapide, hein, parce que le courant sous-marin engendré par ce phénomène de Bahin est assez violent, donc la personne va se retrouver, elle va s'éloigner en fait du bord très rapidement. Donc le réflexe ce sera de vouloir nager vers le sable et il y aura une inefficacité puisque voilà, en général les gens sont démunis de palmes et en fait sans palmes sur un courant de Bahin on ne peut pas lutter, quoi. Donc il faut se laisser déporter et se décaler pour pouvoir après retomber dans une zone où on pourrait être amené par les vagues.
Les conseils hein, toujours précieux de Cyril Lambert, maître nageur en Gironde, propos recueillis par Benjamin Beaucriche pour RTL. Dans un instant, certains médecins en parlent comme le nouveau mal du siècle, l'éco-anxiété, la peur incontrôlable face au dérèglement climatique. Témoignages et expertise dans quelques instants.
RTL Midi. RTL Midi, Antoine Cavallero.
Midi 43, un été marqué par la sécheresse, par des incendies monstres, par des orages d'une violence rare, autant d'événements intensifiés par le réchauffement climatique. De quoi renforcer un sentiment qui se diffuse de plus en plus, l'éco-anxiété, la peur de ces dérèglements. Écoutez le témoignage de Vincent Trentenaire et sujet à ces crises d'angoisse.
Ça peut aller jusqu'à carrément des pensées morbides. Se dire, après tout, plutôt que dans 20 ans, voir le monde s'effondrer, autant se jeter tout de suite dans le canal de l'Ourcq. Le reste du temps, c'est quelque chose de très latent, toujours un peu en fond. Ouais.
La question d'avoir des enfants, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous prend la tête ?
J'ai du mal à me projeter, moi, donc je me dis, waouh, je vais mettre un enfant au monde, il va avoir toute une vie à vivre. La montée des eaux, les potentielles guerres de l'eau, les potentielles guerres pour les ressources.
Propos recueillis par Zoé Pallier, invitée de RTL Matin Weekend. La docteure Alice Desbiol, à qui l'on doit un livre sur l'éco-anxiété, elle explique comment on vit avec ce sentiment considéré par certains de ses confrères comme le nouveau mal du siècle.
C'est pas une maladie, mais une fois qu'on est éco-anxieux, en général, on va le rester, puisqu'on ne naît pas éco-anxieux, on le devient. Donc toute la question, ça va être de vivre avec cette éco-anxiété, de la dépasser, de la transcender, d'en faire une force. Ça passe par plusieurs leviers, hein, notamment une question très forte est celle de l'engagement des individus qui se sentent éco-anxieux. Et donc souvent, cette éco-anxiété, elle va entraîner une mise en mouvement très positive des individus, un engagement. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé aussi pour les personnes éco-anxieuses, que cet engagement prenne la forme d'un engagement au quotidien dans ses choix de consommation ou un engagement plus global à l'échelle politique notamment.
Alice Desbiol, auteur d'un livre intitulé « L'éco-anxiété », c'est aux éditions Fayard. À l'étranger, une grève historique en Angleterre dans un pays où l'inflation dépasse les 10%. Les syndicats font entendre leur voix, les transports en commun fortement perturbés, le métro de Londres quasi paralysé hier. Sarah Menaille, vous êtes la correspondante de RTL Outre-Manche. Comment les Londoniens vivent ce mouvement social ? Est-ce qu'ils soutiennent les grévistes ?
Les Britanniques sont inquiets. Ces derniers jours, c'est principalement le secteur des transports qui est paralysé par la grève. Des milliers d'employés du rail ont été appelés à débrayer par leur syndicat. Mais la contestation concerne aussi les employés de la poste, les éboueurs ou encore les livreurs. Tous protestent contre la baisse du pouvoir d'achat auquel les Britanniques sont confrontés depuis cet été. L'inflation au Royaume-Uni a franchi le seuil symbolique des deux chiffres et la hausse des prix à la consommation a atteint 10,1% en juillet, son plus haut niveau depuis 40 ans. Elle pourrait même dépasser les 13% en octobre. Pandémie pandémie, Brexit et guerre en Ukraine ont eu un impact considérable sur le prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Problème, les salaires des Britanniques, eux, ne suivent pas. Et chez ces travailleurs en grève, partout, le mot d'ordre est le même. Une revalorisation de leur salaire en phase avec l'inflation. L'appel à la grève dans le secteur public pourrait durer au-delà de l'été et se propager aux fonctionnaires de l'enseignement ou encore de la santé à la rentrée.
Sarah Menaï à Londres pour RTL. Le football, la troisième journée de Ligue 1 cet après-midi. Monaco reçoit Lens. Après le fiasco en tour préliminaire de Ligue des Champions, les Monégasques doivent se reprendre. Coup d'envoi à 17h. Et puis ce soir, 21h, Marseille-Nantes. L'OM qui connaît un étrange début de saison. Le nouvel entraîneur croate Igor Tudor contesté. Son homologue nantais veut en profiter pour gagner au Vélodrome ce soir. Antoine Comboiré.
Le climat là-bas, il n'est pas serein. C'est la première fois que je vois un entraîneur qui démarre dans un club se faire conspuer. Donc à nous de faire en sorte que ce soit compliqué pour Marseille et de voir donc son public, pourquoi pas se retourner contre son équipe.
Marseille-Nantes, le match dans RTL Foot, c'est avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et notre nouvelle collègue Karine Galli. RTL Foot à partir de 20h. On termine avec cette histoire rocambolesque. Hier, en fin d'après-midi, une valise abandonnée découverte à Célestat. Yannick Collin, bonjour.
Bonjour.
Correspondant RTL en Alsace. Ce qui a intrigué les passants, ce sont les étranges vibrations de la valise.
Et oui, et cette valise était particulièrement suspecte, abandonnée à côté du grand château d'eau emblématique de la ville. Le service de déminage est tout de suite appelé puisque les passants qui l'ont découverte ont effectivement signalé qu'à l'intérieur, on entend le bruit d'un mécanisme en train de fonctionner et qui fait vibrer la valise. Un périmètre de sécurité est aussitôt installé, deux immeubles évacués, la circulation est coupée dans le secteur. Les démineurs procèdent alors à une radiographie de la valise et effectivement, à l'intérieur, ils peuvent distinguer qu'il y a des fils électriques, une batterie, du matériel électronique. Pas question de prendre un risque inutile. Le service de déminage fait exploser le bagage suspect et découvre un peu étonné le contenu. Il s'agissait en fait de sex toys, moins dangereux qu'une bombe pour s'envoyer en l'air.
Yannick Collin, correspondant RTL en Alsace. Il faut continuer après ça. Merci à vous. Anthony Kaczmarek, vous êtes toujours en studio. Oui. Vous gardez votre sérieux, votre calme. Et en plus, vous avez de bonnes nouvelles. C'est le retour du beau temps.
Exactement. C'est un temps qui peut faire vibrer éventuellement les touristes qui ont envie de soleil pour cet après-midi. Il y en aura quasiment sur tout le pays, sauf près des frontières de l'Est, avec encore quelques averses entre l'Alsace, les Vosges, le Jura et le nord des Alpes. Une averse possible aussi sur le Mercantour et le relief corse, et c'est tout ailleurs. Donc de très belles éclaircies, à peine un voile de nuages entre la Vendée et la Gironde. Et attention, encore du vent en Méditerranée, Mistral et Tramontane, jusqu'à 60 km/h en rafale. Les températures sont toujours de saison, ça ne change pas. 21 degrés à Brest cet après-midi, 25 à Paris, à Lille, à Nancy et à Dijon, 26 pour Lyon et Strasbourg, 29 à Bordeaux et Nice, 32 degrés à Marseille et 33 pour Nîmes et Perpignan.
Merci Anthony et belle journée à vous.
Pour mieux comprendre la météo et ses liens avec notre terre, RTL organise avec Louis Baudin une conférence le 22 septembre. Pour y assister, réservez dès maintenant vos places dans les points de vente habituels.
La suite de RTL Midi, c'est l'invité, un coureur de l'extrême. Il vient de gagner l'une des courses les plus difficiles de France en montagne. C'est de l'ultra trail. On vous explique tout. Je vous dis à dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi, Antoine Cavallero.
L'invité de RTL Midi est un athlète hors norme. Il vient de remporter la 10e édition de l'Échappée Belle, une des courses d'ultra trail les plus dures de France. Bonjour Jean-Marie Thévenard.
Bonjour.
À 149 km sur les chemins du massif de Belledonne dans les Alpes au sud d'Albertville, 11 300 mètres de dénivelé, les chiffres qui donnent donc le tournis. Vous êtes arrivé ce matin à l'aube, moins de 24 heures, 149 km sans s'arrêter, sans dormir. Alors oui, il y a l'euphorie de la victoire, j'imagine, mais dans quel état là vous vous trouvez ?
Bon, bah déjà, c'est une grande satisfaction, c'est d'être arrivé au bout, parce que c'est jamais...
Oui, c'est jamais facile.
Voilà, exactement. C'est vraiment jamais acté. Vous savez jamais si on va arriver ou pas au bout.
Et comment vous avez géré votre course ? Comment on fait pour tenir aussi longtemps sans s'arrêter, sans dormir, toujours en courant ?
Faut pas trop prendre la chose dans la globalité. Voilà, faut pas dire voilà, je pars d'un point et j'arrive à un autre. Non, parce que après, je pense qu'on va au carton. Donc, faut prendre morceau par morceau. Et puis, faut pas s'affoler, hein. C'est long, donc du coup, on sait de toute façon qu'on va passer par des phases qui vont être un peu plus difficiles. Il faut être patient.
Et
voilà.
Vous courez à peu près à combien de kilomètres heure, à quelle vitesse ?
Pouh, on va pas vite, hein. Je pense que c'est du 6 km/h hein, en tout. Mais c'est le terrain après, il est très minéral. Il y a du caillou de partout dans Belledonne.
Ouais, donc on fait attention où on pose les pieds.
Exactement. Et puis là, en plus, avec la météo qu'il y avait, beaucoup de pluie, le terrain était glissant. Donc, fallait être bien, bien vigilant.
Et comment on se prépare? Comment on s'entraîne pour de telles performances? Ça paraît complètement fou, ces courses d'ultra-trail.
Ouais, bah, en fait, je pense que déjà, à la base, c'est faut aimer être dehors. Voilà, ouais. C'est ça. Passer du temps dehors.
Aimer la montagne.
Exactement. Voilà, après, ça se pratique bien de partout, hein, et pas forcément dans la montagne, mais aussi sur la côte. Voilà, on n'en fait pas tous les jours non plus des ultras. C'est un projet. Quand on sait qu'on va s'inscrire, on va participer à une épreuve comme celle-ci, je pense que notre cerveau, il commence à se préparer. Et après, on va passer par les phases qui vont être un peu dures, mais voilà, on a envie de finir, de terminer. Et puis, c'est là que c'est satisfaisant.
Ouais. Pour vous, Jean-Marie Thévenard, l'Ultra Trail, hein, c'est une affaire de famille, car votre frère, Xavier Thévenard, est aussi un grand champion. Il a remporté 3 fois l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est l'épreuve reine, hein, 170 km autour du plus haut sommet d'Europe. Vous courez souvent ensemble, vous vous motivez?
On est encore voisins, donc plus pour très longtemps, mais, mais ouais, ça nous arrive de partager des moments de sortie en montagne, c'est sympa, ouais.
Et votre frère, lui, malheureusement, a dû déclarer forfait pour cette ultra trail du Mont Blanc. Est-ce que vous, alors j'imagine que oui, vous n'allez pas pouvoir le courir la semaine prochaine, ça risque d'être un peu juste niveau timing, mais est-ce que ça serait un de vos objectifs?
Ouais, ben, j'ai déjà essayé de participer 2 fois, et 2 fois, ben, justement, j'ai pas terminé. C'est encore une sacrée belle épreuve qui est encore plus longue. Je trouve même difficile parce qu'il faut courir tout le temps. C'est pas du tout technique. Bon, peut-être pourquoi pas un jour, mais.
Eh ben, on vous souhaite en tout cas d'accomplir ce nouvel objectif. Encore félicitations pour votre victoire sur l'échappée belle, l'une des courses d'ultra trail les plus difficiles de France. Merci beaucoup, Jean-Marie Thévenard. Merci d'avoir répondu aux questions de RTL Midi.
RTL. On est sur une recette un peu provençale.
Allez, sel, piment, d'Espelette.
On ajoute de l'huile d'olive.
On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
Les recettes de l'été.
Midi 54 sur RTL. Et comme tous les samedis, on vous offre une recette. Et c'est avec notre journaliste / cuistot, Pierre Herbulot. Bonjour Pierre.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
La promesse, comme toujours, une recette de l'été, de grands chefs, facile à refaire à la maison.
Oui, et aujourd'hui, je vous propose une soupe de melon. Ah. Une entrée qui reprend un peu les codes du melon jambon, vous allez voir. Plein de fraîcheur et un peu de gourmandise aussi dans ce plat signé Aurélien Largeau, le chef étoilé de l'Hôtel du Palais à Biarritz. Un magnifique palace relais château collé à la grande plage face à l'Atlantique. C'était vraiment exceptionnel.
Vous les choisissez toujours bien avec soin. Bravo Pierre. On vous suit donc au Pays Basque dans les cuisines du chef pour la recette.
Bonjour Aurélien Largeau.
Bonjour Pierre.
Par quoi on commence?
Déjà, il faut choisir un bon melon. Donc moi, étant chauvin, le melon charentais, c'est le meilleur, d'accord?
Très bien.
Non, en plus, en ce moment, il sent très très bon.
On en a un devant nous.
C'est ça.
Vous l'avez décapité?
Oui, je lui ai coupé les deux
extrémités.
Deux extrémités pour ensuite le peler à vif. Comme quand on pèle une orange. Donc on y va tout doucement.
Avec un couteau, vous enlevez la peau, vous faites le tour, quoi.
Exactement.
Qu'est-ce que ça sent bon quand on coupe le melon comme ça?
Ouais, hein. Voilà. Les parfums qu'on aime là. Ça sent l'été, ça sent le bord de plage. Moi j'adore. Une fois qu'on a notre melon pelé à vif, on prend une petite cuillère à pommes parisienne. Donc ça se trouve.
Une cuillère en forme de bille, ouais, c'est ça?
Voilà, ça se trouve assez facilement dans n'importe quel magasin. Et donc vous venez faire des petites billes de melon qu'on viendra disposer dans le fond de l'assiette pour apporter un petit peu de mâche et du melon frais. Ok?
D'accord.
Il y a encore les pépins, du coup ça on va les enlever. Donc on le fend en deux dans la longueur.
Comme à la maison, une cuillère et on enlève
les
pépins.
Une cuillère et on enlève les pépins, ça va tout seul.
Alors là on a notre melon coupé en deux, sans peau et sans pépins.
C'est ça, donc là on va le tailler grossièrement en gros cubes.
Grossier parce qu'on va le mixer de toute façon. Hein,
exactement, c'est ça. Donc on met l'équivalent du melon entier. Une pincée de fleur de sel. Les pincées de cuisinier, c'est 2 pincées à la maison.
Hein. J'allais dire, il faut y aller quoi.
Donc là, on va remettre sur la cuve. On va mettre l'équivalent de 100 g de vinaigre balsamique blanc. Moi, j'aime bien rajouter, évidemment, melon charentais, pinot des Charentes.
J'adore parce que vous faites ça à l'œil, vous. Vous avez le grammage dans l'œil.
Oui, un petit peu, ouais. Ouais, bien sûr. Hop. Et puis ensuite, on mixe. Donc, il n'y a plus qu'à verser.
Donc, on a mis nos petites billes au fond de notre bol.
Exactement. Là, on met notre soupe de melon sur le dessus. Moi, j'aime bien utiliser un petit peu de jambon aussi. On fait des petits pétales.
C'est quoi comme jambon, là?
Quand on est à Biarritz ou au Pays Basque, on essaie d'utiliser du jambon quintoa. Le quintoa, donc, c'est une race ancienne de porc basque.
La tête noire, hein, c'est
ça? Exactement, avec les oreilles qui tombent sur les yeux. Ils sont très mignons.
Bon, bah, on a mis notre jambon sur notre...
Mais c'est pas fini.
Sur la soupe. Ah ouais.
Il y a la petite surprise à la fin. Un granité au porto qui va givrer un petit peu la soupe de melon et apporter vraiment beaucoup de fraîcheur. Donc ça, c'est très simple. C'est 200 g de porto dans lequel vous mettez 30 g de sucre. Vous portez à ébullition. Vous mettez sur une plaque au congélateur. Et après, vous n'avez plus qu'à gratter à la cuillère. Ça fait un petit granité. C'est très facile à faire. Et du coup, on vient le mettre en plein au milieu. Hop, comme ça.
Belle cuillère à soupe.
Une belle cuillère à soupe, c'est ce qui va rafraîchir un peu tout ça.
On goûte ?
On goûte, on y va.
Mmh. Super bon, super frais. Le vinaigre est très important quand même, parce qu'il apporte quand même un peu d'acidité.
Exactement.
On a ce côté sucré, frais, acide, les petites billes de melon, le gras du jambon.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Merci beaucoup, Aurélien Largeau.
Merci beaucoup, Pierre.
Votre conseil, Pierre, il est plutôt écolo.
Oui, conseil anti-gaspi, on peut utiliser les pépins du melon. Je répète, on peut utiliser les pépins du melon. On ne le sait pas forcément. En fait, une fois que vous avez récupéré les pépins avec la cuillère, là, comme on fait tous, vous les rincez abondamment. Ensuite, vous les faites sécher soit au four, soit en plein soleil un jour de cagnard. Vous les mettez dans une petite boîte hermétique. Et ensuite, quand vous avez besoin de les utiliser, ce que je vous conseille, c'est de les passer un petit peu dans une poêle. Ça va les faire un peu toaster, torréfier.
Ouais, comme des graines de courge, des graines de tournesol.
Exactement, de la même façon. Et ensuite, vous pouvez les utiliser un peu pareil. Donc, soit dans une salade, ça va vous apporter un petit peu de croquant. Soit vous ajoutez un petit peu de sel, vous mettez ça dans un bol. Et puis, pour picorer à l'apéro, c'est parfait.
C'est même mieux que les cacahuètes, enfin en tout cas moins gras et plus écolo. Donc merci Pierre Herbulot, votre recette à retrouver sur le site rtl.fr, sur l'application. Vous avez même les photos sur les réseaux sociaux, les chefs se prêtent au jeu, ils posent devant l'appareil photo de Pierre Herbulot avec le résultat, avec le plat qu'ils ont concocté spécialement pour vous, chers auditeurs de RTL. Merci de nous écouter. Dans un instant, on refait un point sur l'information. Je vous dis à tout de suite.
Antoine Cavallero, RTL Midi.
Il est 13h. Et voici les grands titres de l'actualité. On commence tout d'abord par ce qui vous concerne là le plus. Si vous êtes en voiture, vous êtes très nombreux sur les routes ce samedi. On rappelle, une journée classée rouge dans le sens des retours pour tout le pays. Rouge également dans le sens des départs dans le sud-est. 770 km de bouchons cumulés au moment du pic. Pierre Collat, vous êtes resté en studio pour guider nos auditeurs en voiture. Ça coince où actuellement?
Eh bien, dans le sud, sur l'A61, entre Toulouse et Narbonne, vous traversez une succession de difficultés après la sortie 23 Carcassonne. Vous perdez environ 1 heure, 2h15 au lieu d'1h10 sur cette A61. Si vous venez d'Espagne, il faut être très patient pour passer la frontière, puis une très longue attente au péage du Boulou. Ensuite, ça roule à peu près normalement jusqu'à la jonction avec l'A61. Ensuite, entre Narbonne et Orange, vous perdez une demi-heure. Dans l'autre sens, entre Orange et Narbonne, c'est chargé aussi. Coup de frein à Nîmes, puis grosse difficulté à partir de Béziers. Vous perdez un peu plus de 50 minutes sur cette autoroute A9. Et puis un mot de la vallée du Rhône vers la Méditerranée. Après Solèze, vous perdez une vingtaine de minutes pour rejoindre le péage de Vienne. Ensuite, c'est 1 heure de plus qu'en temps normal pour rejoindre Orange. Dans l'autre sens, en direction de Lyon, vous perdez déjà une demi-heure pour rejoindre la 7 à Orange. Ensuite, c'est 1 heure et quart de plus pour atteindre le sud de Lyon.
Merci Pierre Collat pour toutes ces précisions sur l'état de nos routes en ce samedi. Classé rouge, on le rappelle, hein, dans le sens des retours pour tout le pays. Est classé rouge dans le sens des départs dans le sud-est. Après un contrôle de police qui a mal tourné à Vénissieux, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, on l'apprend ce matin, le conducteur de la voiture est décédé hier soir. Le passager, lui, avait été tué sur le coup après les tirs de policiers. L'enquête se poursuit. On rappelle que la garde à vue des deux policiers a été levée hier soir. Selon le parquet, ils auraient agi en légitime défense. Les intempéries tragiques en Corse, ou encore les incendies ravageurs, évidemment évoqué ces deux thèmes par Emmanuel Macron hier soir lors d'un discours à Bormes-les-Mimosas, son lieu de villégiature. Mais le président de la République est également longuement revenu sur la guerre en Ukraine. Il a dénoncé l'attaque brutale de la Russie et il a eu aussi ces mots: accepter de payer le prix de notre liberté. C'est-à-dire qu'il va falloir se préparer à un hiver compliqué avec toujours une inflation en hausse et un prix de l'énergie qui risque d'augmenter. Le sport, le football et la troisième journée de Ligue 1, Monaco-Lens, c'est à 17h cet après-midi. Et puis à 21h, Marseille reçoit Nantes. Ce sera à suivre dans RTL Foot. Eric Silvestro vous attend dès 20h. La météo pour cet après-midi avec un temps sec et ensoleillé sur quasiment tout le pays. Seul l'Alsace, le Jura et le nord des Alpes auront le droit à un ciel parfois chargé avec quelques averses, un voile de nuages qui va s'installer de la Vendée à la Gironde. Le vent va souffler autour de la Méditerranée, Mistral et Tramontane jusqu'à 60 km/h en rafale. En fin de journée, une averse pourrait se déclencher sur le Mercantour et le relief corse. Les températures à présent pour cet après-midi avec 21 degrés à Brest et Cherbourg, 24 à Caen, La Rochelle, 25 à Paris, Lille et Nancy, 27 du côté de Tours, 30 à Agen et Ajaccio, 33 à Perpignan et Nîmes. RTL Midi, c'est fini. Je vous retrouve à 18h pour RTL Soir. Je vous souhaite un très très bel après-midi. La suite, c'est Entrer dans l'Histoire. C'est avec Laurent Deutsch.